Bonjour à chacune et chacun. Dans la série des messages sur les promesses, il est important de nous arrêter sur les promesses en lien avec la pérennité du salut, avec le fait que le salut en Jésus-Christ est acquis une fois pour toutes et indépendamment des circonstances. C'est vrai que ce sujet est un sujet important. Il est important parce qu'il est en lien d'une part avec notre paix, notre assurance en l'avenir, notre finalité et aussi l'assurance de notre espérance. Et nous lisons, c'est vrai, dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et nous savons que cette vie éternelle, notre bienheureuse espérance, est de passer l'éternité en la présence de Dieu. Ce sujet est important parce que le salut, en fait, il n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un commencement. Le commencement d'une vie nouvelle. Il est le commencement d'une vie. Oui, d'une vie. Et cette vie ne se terminera pas par la mort. Le salut est le commencement d'une vie nouvelle. C'est-à-dire d'une vie qui ne demande qu'à se développer, s'épanouir, venir à maturité. Et ce développement, il prend toute la vie. Toute la vie que nous passons ici sur la terre. Bien sûr, le salut en est une phase importante, même capitale de notre vie nouvelle, de notre vie spirituelle, puisqu'il en est le point de départ. Il est le moment charnière qui nous voit passer de la mort spirituelle à la vie, c'est-à-dire de notre état de personne condamnée à celui de personne pardonnée, graciée, rachetée. Le salut reste donc le point de départ de toute une vie de relation avec notre Dieu. Vie qui, en se développant, nous amène à ce que Pierre nous a développé il y a quelques mois, avant l'été, sur le fait d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence dont nous parle l'apôtre Paul en Romains. Mais notre espérance, elle est aussi en lien avec l'amour qui est la base de notre relation avec Dieu. Cette relation est en effet basée sur l'amour et l'amour seul, car nous recevons tout de Dieu et nous sommes entièrement dépendants de lui. Et là, je vous renvoie au message que Dieu nous a donné sur le fait que Dieu pourvoit à tous nos besoins, nos projets ou nos soucis du lendemain. Mais aborder le sujet de la certitude de notre salut nous amène aussi à aborder certains passages de la Bible qui pourrait nous faire penser que la pérennité de notre salut pourrait être liée à certaines actions que nous aurions à faire. On abordera donc ça en deuxième partie du message, et on abordera un des passages qui pourrait nous faire penser que des situations particulières pour le croyant pourraient lui faire perdre son salut. Première partie, le salut est définitif. Et c'est vrai qu'il y a dans la Bible un nombre incroyablement grand de passages qui nous montrent cette vérité. On peut même dire que c'est une vérité transversale, une vérité qui traverse la Bible et qui est commune du début jusqu'à la fin de la Bible. Celui qui croit au Fils a la vie. C'est dans Jean 3 qu'on lit cela. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est vrai que si vous croyez en Christ et seulement en lui comme base de votre salut, alors vous êtes au bénéfice de cette merveilleuse promesse de Dieu déclarant que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle dès maintenant et pour toujours. Et cette promesse, elle est inconditionnelle, c'est-à-dire elle ne demande rien en contrepartie. Bien sûr, elle nécessite d'être crue. Il est bien dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais le fait de croire n'est pas une bonne œuvre que nous puissions faire. Croire, c'est simplement le fait de recevoir ce salut pour pouvoir recevoir le salut, il faut bien évidemment être conscient au départ que l'on est soi-même perdu et que l'on a besoin de ce salut. Nous allons voir maintenant plusieurs aspects du fait que le salut est acquis définitivement. Ce sont comme différentes facettes, si on veut, de la même vérité, comme si on voyait cette vérité sous différents angles ou bien sous différentes approches. Tout d'abord, Dieu le Père nous a choisis. Et c'est vrai qu'on lit ça en Romains puis en Éphésiens. On va lire deux passages dans lesquels Paul nous montre que nous sommes choisis par Dieu. Romains 8, alors vous verrez, il y a plusieurs versets. Enfin, on va revenir plusieurs fois au chapitre 8 de Romains. Romains 8, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a accordé la gloire. Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. C'est vrai qu'après être devenu chrétien, en acceptant le salut en Jésus-Christ, on découvre que Dieu le Père nous a choisis avant même la création du monde. Donc pour qu'un chrétien puisse perdre son salut, il faudrait que la première personne de la Trinité, que Dieu lui-même, faillisse dans le fait qu'il nous a choisis. Voyons maintenant, en lien avec l'œuvre de Jésus-Christ qui est parfaite. Et on va lire d'autres versets dans le chapitre 8 des Romains qui nous révèlent certains aspects de l'œuvre de Jésus-Christ. Le verset 31, « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous ne perdons pas le salut parce que l'œuvre de Christ est parfaite. Contrairement à ce que notre nature humaine pourrait peut-être nous le faire penser, notre salut ne s'appuie pas sur des bonnes œuvres que nous aurions pu faire. Notre salut s'appuie sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. La perfection de l'œuvre de Jésus-Christ comprend en fait deux éléments. D'une part, son sacrifice, qui est pleinement suffisant pour nous racheter, et d'autre part, le fait que dans sa position actuelle à la droite de Dieu, Christ intercède pour nous maintenant, tous les jours. Il intercède afin que, si Satan nous accuse, il est là, à la droite de Dieu, il est notre divin avocat, il défend notre cause. Dans Hébreux 7, nous lisons « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Ces versets nous enseignent que Christ nous sauve et nous sauve complètement et pour toujours. Il faudrait donc que Christ faillisse aussi dans son œuvre de salut pour qu'un chrétien puisse perdre son salut. Le point suivant, c'est le fait que le Saint-Esprit est aussi le gage de notre héritage. On a parlé de Dieu le Père, de Dieu le Fils. Voyons maintenant ce qu'il en est concernant Dieu le Saint-Esprit. Dans Éphésiens, nous lisons « En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Autrefois, quand un homme achetait un terrain, le vendeur lui donnait en gage de la vente une poignée de terre pour montrer que le terrain lui appartenait, que le terrain avait bien été vendu. De la même façon, le Saint-Esprit que Dieu donne à celui qui reçoit son salut est le gage de son héritage. Le fait que le Saint-Esprit demeure en nous est le gage, la promesse de notre héritage. Celui qui hérite, c'est le Fils. L'héritier, ce n'est pas un étranger. Pour Dieu, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes devenus des fils et des filles. Et ce statut, c'est un statut qui ne change plus. Nous avons cependant la tâche de laisser le Saint-Esprit se développer en nous. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais en attendant, on peut quand même lire un autre verset dans Éphésiens, Éphésiens 4, 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Autrefois, le roi scellait un document avec de la cire. Et quand il scellait avec de la cire, il y marquait son empreinte avec le chaton de la bague, avec la face de sa bague. Comme ça, il n'y avait pas de confusion possible, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre qui l'avait scellé. Personne alors n'osait briser le sceau, sauf avec l'autorisation du roi, c'est-à-dire sauf celui à qui le document était destiné. Voilà. Ce passage nous déclare que Dieu lui-même nous a scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire de son empreinte, afin que nous soyons héritiers dans son royaume. Lisons encore un autre passage dans Romains 8, qui précède les passages qu'on a lus tout à l'heure, les versets 26 et 27. « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. » C'est vrai que quand nous ne savons pas prier comme nous le devons, c'est-à-dire quand nous sommes dans une situation de faiblesse, cela peut arriver, alors le Saint-Esprit intercède pour nous. Dieu est pleinement fidèle. Il ne nous laisse pas tomber quand nous sommes dans la faiblesse. Rappelez-vous ce que Jésus disait à ses disciples à propos du Saint-Esprit. Dans Jean 14, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui poursuit et achève l'œuvre commencée par Jésus-Christ. Il faudrait aussi que le Saint-Esprit faillisse pour qu'un chrétien puisse perdre son salut. Dans 1 Jean 4, nous lisons, « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. » Et puis dans le chapitre suivant, on lit, « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. » En nous disant, nous reconnaissons, et afin que vous saviez, Dieu veut que nous ayons l'assurance que nous lui appartenons et que nous lui appartenons pour toujours. On voit aussi que personne ne peut nous arracher de la main du Père. On lit ça dans ce que Jésus a répondu aux Juifs qui voulaient le lapider et qui lui ont posé une question piège. Ils ont fait ça plusieurs fois, les Juifs. Ils lui ont dit, si tu es le Messie, dis-nous-le franchement. Puis ils se sont dit qu'ils répondent d'un côté, on le coince, qu'ils répondent de l'autre, on le coince aussi. Mais Jésus leur a répondu, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Christ déclare que nous avons la vie éternelle quand nous l'acceptons comme notre Sauveur. La vie éternelle, elle n'est pas plus courte que l'éternité. Christ dit que nous ne périrons jamais. Jamais n'est autre chose que jamais. Christ dit que rien ne peut nous ravir, ni de sa main, ni de celle de son Père. Ce n'est pas nous qui tenons fermement la main de Dieu, mais j'ai envie de dire, c'est Dieu qui tient solidement notre main. Moi, ça me rassure quand même de savoir ça. Nous lisons maintenant toujours dans Romains 8, les versets suivants, les versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous est dit clairement que rien ne peut nous séparer de lui après que nous ayons reçu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce qui est encourageant aussi, c'est que Dieu aussi achève l'œuvre qu'il a commencée en nous par le salut. Philippiens 1, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participiez tous à la même grâce que moi. » Et c'est vrai, n'est-ce pas réconfortant de savoir que c'est Dieu lui-même qui achèvera cette œuvre, non seulement jusqu'à son terme, mais encore jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'au jour où nous serons avec lui dans son royaume. Et c'est vrai que tout à l'heure, on va partager la scène, et c'est aussi un moment fort pour nous rappeler aussi notre bienheureuse espérance. En Romains 8, nous lisons, toujours en Romains 8 donc, les versets 15 et 16, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette certitude parce que lorsque nous avons reçu son esprit, cet esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une certitude qui vient de quelque chose qui est en nous. Ce n'est pas une théorie à laquelle nous faisons confiance. Elle est inscrite dans notre cœur. Cette certitude que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes à lui pour toujours est l'une des bonnes choses que Dieu veut que nous possédions une fois que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Et maintenant, on va voir aussi la question de ce deuxième avis, qui est un sujet délicat. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a certains passages de la Bible qui pourraient faire penser que le chrétien, après avoir été sauvé par grâce, pourrait pendant sa vie chrétienne, en fonction de choses qu'il ferait ou qu'il ne ferait pas, perdre son salut. La compréhension que j'ai développée ce matin est celle qui ressort dans le plus grand nombre de passages bibliques qui traitent de la question de la certitude du salut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc une pensée transversale qui se dégage des textes bibliques, particulièrement du Nouveau Testament. Mais il ne serait pas juste de ne pas dire que d'autres passages de la Bible pourraient faire penser le contraire. Ces passages ne sont pas très nombreux, mais ils paraissent suffisamment clairs à première vue, comme ça, pour pouvoir parfois créer des doutes. Or, la lecture de la Bible ne doit pas amener chez nous des doutes. Elle doit au contraire nous amener des certitudes. Alors là, je vous dis, si certains passages sur ce sujet ou même sur d'autres sujets vous troublent, ne restez pas troublés. Parlez-en à d'autres chrétiens afin de dissiper les doutes et enlever les troubles. C'est un élément important quand même ça. Rappelez-vous que lorsque Satan a voulu faire chuter l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé à semer du doute. Il a semé un doute qui a finalement éloigné l'homme de Dieu. Alors, nous les anciens, on est à disposition, mais il n'y a pas que nous. Vous pouvez aussi questionner d'autres personnes qui peuvent aussi donner de bonnes réponses. Mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser d'emprise à notre ennemi par la présence de doutes concernant les réalités que l'on trouve dans la révélation de Dieu. Ce sujet est aussi délicat. Délicat parce qu'il porte sur des passages qui sont difficiles à comprendre. Des passages qui pourraient nous faire penser que la Bible finalement se contredit. Car à première vue, et parfois même juste par le biais de certaines traductions, on a l'impression qu'ils sont en opposition avec le message général de l'Évangile. Mais ce sujet est aussi délicat parce qu'il renvoie indirectement à toute la question de notre propre justice ou à la capacité que nous pourrions avoir à accomplir avec nos propres forces quelque chose de bon qui nous permettrait de mériter une faveur venant de Dieu. Et ça, c'est un piège. Ce piège risque de nous placer dans une position de supériorité. Supériorité de par le fait qu'on aurait fait quelque chose. C'est la notion des œuvres que l'homme pourrait faire et qui entraîne des mérites. C'est la notion de ce que j'appelle les œuvres méritoires. Mais ce sujet est aussi important. Important parce qu'il est en lien avec une vie chrétienne équilibrée. D'une part, celui qui pense que le salut est acquis une fois pour toutes, sans mérite, peut courir le risque de se complaire dans la pratique du péché. Et à ce sujet, c'est Paul qui en parle, et c'est le chapitre 6 de Romains qui nous donne des réponses par rapport à cela et qui traite ce sujet. Je vous invite à lire juste les deux premiers versets, Romains 6, versets 1 et 2. « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Donc d'une part, ce risque de laxisme, et d'autre part, le risque pour celui qui pense qu'il faut faire des efforts pour garder le salut, de celui qui pense qu'il faudrait un travail précis, peut-être avec des règles, le risque de courir le risque de vivre un salut qui est basé sur des œuvres méritoires. Ce salut est alors vécu d'une certaine façon comme la contrepartie de mérite lié à des choses qu'il y aurait à faire. Et cette compréhension, elle est très grave parce qu'en fait, elle est le début du dénigrement de l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ par laquelle nous avons accès sans aucune contrepartie. Et c'est ça qui est important de retenir ce matin, c'est que nous avons à avoir une vie chrétienne équilibrée. Nous n'allons pas ce matin lire tous les différents textes qui pourraient nous faire penser cela, qui pourraient nous faire croire qu'on peut perdre son salut. Tout d'abord, on n'en a pas le temps, puis je ne crois pas que ce serait forcément très utile, ce serait plutôt l'objet d'études bibliques. Par contre, on va voir un de ces textes. Et je vous invite à lire un texte qui est dans Hébreux 6, les 6 premiers versets. C'est pourquoi, enfin, j'ai choisi ce texte parce que il est très fort et je pense que c'était bien de le traiter celui-là. J'aurais voulu en traiter un deuxième par rapport le texte du CEP et des serments. Mais je l'ai enlevé parce que je crois que ça aurait été trop long. Et puis je me dis peut-être que ce serait l'occasion de le traiter dans un autre message. Donc nous lisons Hébreux 6, ce premier texte. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, sans avoir à reposer le fondement de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Alors, je ne sais pas ce que ça soulève en vous de lire ce texte après tous les autres textes qu'on a lus. C'est vrai qu'il y a dans ce passage plein d'éléments forts qui s'entrechoquent, sont un petit peu déroutants après ce que je viens de vous exposer. Arrêtons-nous tout d'abord sur le contexte de ce passage. Cette épître s'adresse aux Hébreux et aussi à nous, puisque nous sommes le peuple de Dieu par extension. Cependant, pour qu'elle nous soit utile, il faut la comprendre dans le contexte et les besoins des Hébreux pour lesquels elle était écrite. L'épître aux Hébreux a été écrite aux environs de l'an 68, soit 35 à 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ces Hébreux nés de nouveau, donc c'était des croyants, ils sortaient de 13 à 15 siècles d'une application plus ou moins rigoureuse de la loi de Moïse. Et ils avaient la fâcheuse tendance à facilement se remettre sous la loi et ainsi à se couper de la grâce de Dieu. Dans ce contexte, au verset 6, il nous est parlé de ceux qui pourtant sont tombés. Mais tombés de quoi ? Et tombés dans quoi ? Tombés de quoi ? Tombés dans quoi ? C'est important là. Tombés dans le péché ? Non. Non, parce que si le fait d'être tombé dans un ou des péchés nous empêche d'être renouvelés et ramenés à la repentance, cela contredit une foule d'autres passages de la parole de Dieu. Jésus nous recommande de pardonner 7 fois, 77 fois par jour pour le même péché. Et puis, il y a tous ces versets qui nous disent que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Aucun péché ne peut nous rendre inaptes à la repentance, au pardon et au salut qui en découle. Ce passage qui s'adresse ici d'abord aux Juifs, puis ensuite à nous, signifie plutôt être tombé sous la loi, tombé sous la loi, sous l'emprise des œuvres de propre justice, sous le principe des œuvres méritoires. Tombé donc de la position de la grâce, tombé de la grâce et se retrouver sous la loi. Lorsque la relation d'un chrétien avec son Dieu sort du cadre de la grâce, il n'y a pas de changement d'attitude possible tant qu'il est dans cet aveuglement. Et moi, je pense que c'est cela que veut dire ce texte. Le principe de fonctionnement de la loi est directement opposé à celui de la grâce et de la repentance. Dans ce sens, retomber sous le principe de la loi, c'est fouler aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. Cela revient en fait à le discréditer, à le rendre nul, puisqu'on se remet sous l'ancienne alliance qui nécessitait à chaque nouveau péché un nouveau sacrifice. Le principe de la loi est opposé à celui de la grâce, parce que la loi, elle dit, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Et lorsqu'on vit sous la loi, il n'y a pas de repentance possible. La conséquence du non-respect de la loi, donc la conséquence du péché, c'est la mort. Or, sous la grâce, la conséquence de la repentance, c'est le salut, c'est la vie. Donc vous voyez, ces deux choses-là, la loi et la grâce, sont totalement opposées. Il y en a une qui part par là-bas, l'autre elle part par là-bas. Elles sont vraiment complètement opposées. Paul dit aux Galates qui éprouvaient les mêmes difficultés, en Galates 5, nous lisons « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Ces passages d'Hébreux et de Galates n'enseignent pas que le croyant peut perdre son salut. Ils enseignent que lorsque le croyant se remet sous le joug de la loi, il est en dehors du bénéfice de la grâce. Cela coupe sa communion, avec Christ et s'entraîne, pour le coup, la stérilité tant que dure cet aveuglement dans la vie du croyant. En conclusion, un petit dernier clin d'œil. L'accès au salut qui est lié à la grâce de Dieu. Le salut s'obtient par la grâce. De la même façon que le salut s'obtient par la grâce, c'est par la grâce de Dieu que ce salut est conservé dans notre vie. Cela ne dépend pas de nous. C'est le don gratuit et éternel de Dieu. Ces deux vérités vont de pair. Le fait d'accéder au salut par grâce et le fait de maintenir ce salut aussi par grâce. Si toutefois il fallait un quelconque mérite pour garder ce salut, c'est-à-dire s'il fallait faire des efforts ou un certain travail méritoire de notre part, l'accès au salut ne pourrait alors pas être compris comme la réponse à notre foi et notre acceptation de ce don gratuit. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour ma vie? Parce que finalement, c'est bien de faire un petit de la théorie, mais qu'est-ce que ça représente vraiment pour nous, pour notre quotidien de tous les jours? Pour moi, le fait de savoir que Dieu ne m'abandonnera jamais, malgré mes faiblesses et mes manquements peut-être, c'est pour moi un grand encouragement. Ça m'aide à l'aimer plus et à désirer davantage sa présence en moi. Cette assurance en la fidélité éternelle de Dieu me stimule. J'espère qu'il en est de même pour vous. Plus je connais la grandeur de l'amour de Dieu, plus je désire me rapprocher de lui. Et c'est ça qui est important, que ma connaissance de l'amour de Dieu grandisse et qu'elle m'attire toujours plus vers lui, à toujours plus désirer le connaître, à toujours plus se plonger dans sa parole. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, nous lisons « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Je vous invite à peut-être une petite minute de réflexion, après quoi je prierai, puis on partagera la scène ensemble. Oui, Seigneur, merci parce que c'est toi qui t'es approché de nous. Merci parce que nous qui n'avons aucune capacité à nous approcher de toi, eh bien, tu as tout accompli. Tu as donné ta vie. Tu es ressuscité et tu intercèdes encore maintenant à chaque instant pour nous. Sois loué, sois béni Seigneur parce que cette relation est basée sur l'amour, parce que cette relation est une relation certaine parce qu'elle dépend de toi. Et c'est vrai Seigneur, aide-nous à ce que, conscients de cette certitude, nous ayons toujours plus ce désir de mieux te connaître, de vivre toujours plus près de toi, de vivre toujours plus près de ce que tu désires pour nous. Merci Seigneur pour toutes tes bontés, pour ta fidélité. Amen. Pour introduire le partage de la scène, je vous invite juste de lire le récit de la dernière Pâque que Jésus a pris avec ses disciples, qu'on trouve dans Matthieu 26. Matthieu 26, les versets 26 à 29. Moi, je l'aime beaucoup, ce passage, parce qu'il y a le passage de la Pâque, il est dans les quatre évangiles, mais j'aime beaucoup celui-ci, surtout par rapport au verset 29, qui est un verset plein de promesses. Donc, nous lisons, « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Partager ce repas, c'est vrai, c'est annoncer qu'il est déjà venu et qu'il revient bientôt. On comprend donc que pour prendre ce repas, il faut être au bénéfice du salut en Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, ben vous passez simplement le pain et le jus de raisin à votre voisin. En partageant ce repas, moi je vous invite à nous rappeler cette espérance qui est certaine de boire un jour ce vin nouveau dans le royaume de Dieu, dans la présence de celui qui est l'objet de notre espérance, dans la présence de Jésus-Christ. Vraiment que ce soit ce qui vous habite en prenant ce pain, en prenant ce jus de raisin. J'invite les 4 personnes à qui j'ai demandé de venir faire le service de s'avancer. Comme ça, on va passer le jus de raisin et tout de suite derrière, le pain et le jus de raisin tout de suite derrière. Voilà, je laisse la place maintenant à Jean-Paul pour les annonces.
J'ai beaucoup, beaucoup d'annonces à partager avec vous. Il y en a certaines qui vont s'afficher là, pas d'autres. Les annonces concernant les activités de la semaine d'abord. Semaine chargée, très chargée. Demain soir, réunion de la commission travaux, c'est juste, Philippe ?
Oui.
C'est juste, merci. On n'avait pas confirmé si c'était juste ou pas. Réunion, donc, la commission travaux demain soir. Mardi, on aura une réunion de prière spéciale qui sera sur plusieurs thèmes tout à fait précis. Déjà, pour l'Église, sur justement la réflexion travaux, toute cette réflexion de construction, de remise à jour et la suite. Et puis aussi un temps de prière spécial pour notre fête de samedi. Jeudi, il y a plusieurs choses. Jeudi, la pastorale à 17h. Je vous invite aussi à prier pour cette rencontre avec nos frères et sœurs des autres églises du Pays de Gex. C'est important. Le soir, la chorale. Et puis après, on arrive sur le week-end. Celui qui me dit qu'il s'ennuie ce week-end, je crois qu'il faut qu'il se nettoie les oreilles. Vendredi, samedi, il y a la banque alimentaire. Je vous invite vraiment, on a besoin de monde pour le vendredi. Le vendredi pour le Carrefour Sony, on n'est pas assez. On se trouve à 2 personnes alors qu'il faut être 5 ou 6. Donc il faut vraiment aller jeter un coup d'œil et puis venez donner 1 heure de temps, n'importe quand, dans la journée, dans l'après-midi. Il y a vraiment besoin là d'aide et c'est vraiment notre engagement pour notre prochain là. C'est vraiment sympa aussi de partager ça. Ça fait voir l'autre côté de l'autre facette de la vie et c'est super important aussi. Donc inscrivez-vous. Il y a encore des petits papillons avec le doodle pour s'inscrire sur le site. Autrement, vous venez me demander et je vous inscrirai moi. Il n'y a pas de souci. Donc la banque, c'est vendredi et samedi. Vous pouvez vous inscrire soit à Sony, soit il y a un autre doodle aussi qui est marqué là-bas pour le carrefour de la poterie. Mais là, il y a besoin d'un peu moins de monde. Parce que d'abord, le carrefour est plus petit et puis il y a déjà plus de monde aussi. Voilà. Samedi, c'est notre fête de l'Avent, de Noël avant, qui est avant Noël, donc. Je vais m'arrêter là. Deux choses. D'abord, on a besoin que vous vous inscriviez pour le repas, vraiment, que vous marquiez sur ce panneau combien vous serez. C'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas encore inscrites. C'est important de marquer combien vous serez. C'est une question toute pratique, hein. Savoir combien on met de place et de chaises et de tables. Il y a suffisamment, il y a jusqu'à 400, mais on a besoin de savoir exactement. Voilà. Ensuite, il y a aussi une autre feuille pour s'inscrire, pour donner un coup de main. Où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Ce sera trop tard dimanche prochain, hein. On va enlever les feuilles après, hein. Donc pensez vraiment à le faire aujourd'hui. L'aide pratique, on se donne rendez-vous samedi à 9h moins le quart, dès 9h moins le quart. Pour ceux qui le peuvent, pour mettre en place la salle. Okay ? Et puis, on va définir dans l'après-midi à quelle heure est-ce qu'on fait nos répétitions de samedi dans la journée. Voilà, donc à partir de 8h45, on a besoin de demain, simplement demain. Il y a des chaises à mettre, il y a des tables à mettre, il y aura la scène à monter, il y a un tas de choses à préparer. Voilà, donc ça, vous pouvez trouver au fond, vous pouvez aussi vous adresser à nous, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour ce qui se passe dans la semaine. Mais aujourd'hui, on l'a déjà dit, il y a le marché artisanal à la salle polyvalente, ici, et on a un stand aussi, l'église, et on a encore besoin d'une personne, de 14h à 18h cet après-midi. Alors, je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont prises de 14h à 18h, déjà pour les répétitions, ici cet après-midi. Mais il y a bien une personne qui n'est pas dans la fête de Noël, là. Alors on cherche vraiment quelqu'un. Je veux dire pourquoi ça, c'est tout simple. C'est parce qu'il y a des personnes qui doivent venir répéter cet après-midi et qui sont sur le stand. Donc il faudrait les remplacer dans ce laps de temps, donc entre 14h et 18h, et vous adresser à Craig qui est là.
Je dirais même le pire des cas, c'est entre 3h30 et 5h30. Donc ça, vous avez raccourci à 2h là, donc c'est vraiment 2h, et vous donnez ça pas pour la fête de Noël, mais vous donnez ça pour Dieu, vous donnez ça pour l'Église. Donc juste 2h.
Voilà, mais 4 c'est mieux, hein.
Voilà, 4 c'est mieux.
4 c'est bien mieux. Voilà. Deux informations par rapport à du futur aussi. Pour les personnes qui n'étaient pas là dimanche, j'ai encore quelques enveloppes à donner pour le vote pour les travaux. Donc si vous n'étiez pas là dimanche, vous me demandez, je vois un certain nombre de personnes qui n'étaient pas là dimanche et dont j'ai encore les enveloppes. Avant de les mettre à la poste, je vais encore attendre ce dimanche. Voilà, donc je vois différentes personnes ici. N'oubliez pas de le demander. Je vous rappelle que le retour, c'est pour le 8 décembre. Donc vous avez encore 15 jours là. Donc largement le temps. Et puis n'hésitez pas à nous demander des infos. Il n'y a pas de problème, on vous les donnera en complément si vous en avez besoin. Mais ça, on l'a déjà dit aussi. À partir de la semaine prochaine, on aura le jeudi 5 décembre, le soir, à 20h, 20h30, on définira ça. Le jeudi 12 décembre et le jeudi 19 décembre, un parcours baptême, ici. Alors ça s'adresse à toutes les personnes qui ont entendu ce mot baptême mais qui ne savent pas ce que ça veut dire, qui sont intéressées, qui ont été interpellées aussi par cet engagement qu'on nous rappelle encore aujourd'hui, cet engagement de vie. Et on veut vraiment faire quelque chose qui soit ouvert à toutes ces personnes-là. C'est une discussion, c'est un travail à préparer ensemble. Voilà, un moment sympa en tout cas, très convivial. Donc on invite donc ces personnes à venir en parler à Pierre, à moi, à John, rapidement, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur une heure. On va essayer, on a bien dû poser un jour, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui ne peut pas être là ce jeudi. Donc voilà, on veut vraiment que ça soit quelque chose de clair et qu'on puisse y participer les uns les autres, tous ceux qui sont intéressés par ce problème. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est intéressé ou que vous savez intéressé, n'hésitez pas à lui lancer le temps de la perche aussi pour ces soirées. C'est prévu 5, 12, 19 décembre. Et on fera sûrement dans le printemps aussi une série aussi. Voilà, pour toutes les annonces concernant les activités, je crois qu'il y a déjà de quoi faire. J'ai rien oublié. C'est magnifique. Si j'ai oublié un truc. Dimanche prochain, dans notre culte, est-ce qu'on maintient le petit déjeuner? Peut-être on va le supprimer cette fois, notre petit déjeuner, parce que si on aura du rangement à faire tard le soir, probablement. Donc rendez-vous dimanche prochain pour notre culte à 10h30. Et exceptionnellement, on n'aura pas de petit déjeuner. Déjeuner chez vous, ça fait rien. C'est super. Ce n'était pas un petit déjeuner, c'est un petit café d'ailleurs. Simplement. Voilà, maintenant des annonces concernant des personnes de l'Église. Cette semaine, Didier rentre à l'hôpital, mardi soir, pour être opéré mercredi. Donc mardi soir, on va aussi prier pour Didier. Je vous invite vraiment à venir, qu'on prie mardi soir pour Didier. On veut te porter, Didier, continuer à te porter, et puis on espère que tout se passera bien. En tout cas, on veut te remettre à Dieu, vous remettre à Dieu tous les deux, et on veut se réjouir aussi de vous revoir, de te revoir bientôt, avec de nouveau une pleine forme. Voilà, on vit dans l'avenir, on ne vit pas dans le passé. Donc c'est ce qu'on veut se réjouir ensemble, en tout cas. Pensez à prier, si vous ne venez pas mardi, pensez à prier mardi, pensez à prier mercredi. Pour Didier, l'opération prévue mercredi matin, de bonne heure. Donc dès qu'on aura des nouvelles, on vous les mettra sur le site également. Pensons aussi pour des opérations futures à la famille Cuypers, à Jacques et Guylaine, qui sont vraiment très fatigués. On peut aussi leur faire une petite visite, ça leur fera énormément plaisir. Passez juste 5 minutes à faire un petit coucou, ça leur fera plaisir. Pensons aussi à Hélène, qui est la Hélène Tadfort, qui sera aussi opérée. On en parlera dimanche prochain peut-être, dans les semaines qui suivent. Continuez à penser à Mélanie, il n'y a pas d'autres nouvelles, Philippe? Pas d'autres nouvelles pour l'instant. Continuez à prier pour Mélanie aussi. Et puis on pensait à Maud aussi, puisqu'on a parlé de Maud ce matin. Et aussi la mettre dans nos prières aussi. Voilà. Ça nous fait beaucoup de choses. On est bien occupés, mais je crois que c'est bien que Dieu nous occupe aussi et nous prenne près de lui. Voilà, je vous invite à vous lever et je vous lirai encore deux petits versets qui sont pour chacun, qui sont pour toi Didier, qui sont pour toi Maude, qui sont pour, pour la famille Kuipers, qui sont pour Hélène. C'est à la fin de l'épître de Paul aux Philippiens, où Paul dit aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. » Vous vous rendez compte ce qu'il leur dit ? « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Bonne semaine.